De la graine naîtra le fruit, du bourgeon s'épanouira la fleur et de l'hiver refleurira le printemps. Ce temps qui s'annonce est un temps de germination, de maturation, miracle de la nature où tout commence à se transformer, où la vie peut renaître de la mort. Tout au long de ce temps, la confiance est le point d'ancrage de notre foi. Elle sera la sève qui fera renaître la vie, la force qui nous sortira de la torpeur hivernale, notre port d'attache dans les tourments de la vie. C'est vers ce Dieu, de qui tout peut renaître, que nous voulons nous tourner ce matin pour trouver en lui la confiance et la paix. Amen. Je vous invite à prolonger cette invocation en chantant le cantique 390. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons pour trouver auprès de lui force, paix et espérance. Bienvenue. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans cette maison de prière. Bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens habitués de ce lieu. Et une bienvenue toute particulière si vous êtes ici pour la première fois ou en visite. Willkommen, welcome. J'ai repéré des gens qui venaient d'Allemagne, de Corée et d'ailleurs ce matin. Alors soyez toutes et tous les bienvenus, surtout si vous êtes nos visiteurs ce matin. La réflexion que je vous propose ce matin pourrait s'intituler ainsi: coup de chance ou bénédiction? Comment faire la part des choses entre ce qui peut s'apparenter à de la chance ou plutôt à une bénédiction? Et nous le ferons à la lumière du beau texte de Luc 17, ce texte où l'on voit Jésus guérir 10 lépreux. Ce texte inspirera aussi nos prières. Et c'est pourquoi nous allons tout de suite nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est Jean-Pascal qui nous conduit dans la prière et la lecture de la parole.
Esprit de Dieu, source vive du Père, nous te louons pour cet aujourd'hui marqué de ta présence. Rends-nous réceptifs et attentifs à ton évangile. Que chacune de nos journées soit ponctuée de la mémoire de tes bienfaits pour nous. Ouvre nos cœurs à l'écoute de ta parole. Amen. Louons le Seigneur avec le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et te couronne de fidélité et de tendresse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de fidélité. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa fidélité est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, l'Éternel est tendre pour ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Bénissez le Seigneur, vous, toutes ses œuvres, partout dans son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Amen. Nous entonnons maintenant le cantique 383.
Thank you.
Lisons donc maintenant dans Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. »
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné la vie, ce que nous avons de santé et d'intelligence. Tu nous as donné un abri, le sel et le pain, la foi et l'espérance. Et nous ressemblons aux 9 lépreux qui sont guéris, mais souvent enfermés dans leur ingratitude. Alors nous voulons te remettre tout ce qui nous empêche de nous agenouiller à tes pieds pour te rendre grâce et te remercier. Peut-être le premier lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il avait hâte de retrouver les siens. Pardonne notre impatience qui nous empêche de nous arrêter pour discerner l'essentiel. Peut-être le deuxième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il avait du travail en retard. Il devait le rattraper. Libère-nous des soucis et de l'agitation qui éparpillent et qui nous éloignent de ta paix. Peut-être le troisième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il n'était pas sûr que la guérison venait de Dieu. Et si tout simplement il avait eu de la chance. Pardonne notre méfiance et nos soupçons qui nous empêchent de t'accueillir comme Seigneur dans notre maison. Peut-être le quatrième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il a douté. Il voulait d'abord s'assurer que la guérison durerait. Alors pardonne notre incrédulité qui nous empêche de te faire confiance. Peut-être le cinquième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il voulait faire plus que simplement remercier, alors il n'a rien fait. Pardonne notre velléité qui nous empêche de nous enraciner dans la prière et la persévérance. Peut-être le sixième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il s'est dit qu'il le ferait demain, et demain il a oublié. Pardonne notre amnésie qui nous éloigne de la reconnaissance et de la fidélité. Peut-être le septième lépreux n'est-il pas revenu parce que les autres ne sont pas revenus et ils ne voulaient pas se démarquer du groupe. Pardonne nos peurs et nos conformismes qui nous empêchent de marcher même seuls à ta suite. Peut-être le huitième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il pensait mériter sa guérison. Il faut dire que c'était un homme qui avait beaucoup travaillé. Pardonne notre ingratitude qui nous fait croire que nous méritons ce que nous avons. Peut-être le neuvième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il n'était plus un enfant. Il savait que Dieu est au-delà des remerciements. Pardonne notre orgueil qui nous empêche de nous agenouiller comme un enfant devant son Créateur. Faisons un instant silence devant Dieu. Jésus dit au dixième lépreux, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Si l'orgueil et l'oubli nous enferment sur nous-mêmes, la louange et la gratitude nous libèrent de nous-mêmes. Que le pardon de Dieu, la grâce du Christ et la liberté de l'Esprit nous relèvent et nous envoient. Oui, levons-nous, allons. La foi nous sauve. Amen. Et je vous invite à dire notre reconnaissance avec cette prière de tous les temps et de tous les chrétiens qui dit avec les mots déjà anciens, mais la pertinence et la permanence de notre foi, avec les mots du symbole des apôtres, du credo, confessons notre foi. Vous trouvez ce texte au numéro 169. Et je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Et nous prolongeons par le chant au numéro 214. Thank you. Alors oui, coup de chance ou bénédiction. Quand je gagne au loto, bon, ça m'est jamais arrivé, hein, mais si je gagne au loto, coup de chance ou bénédiction, on aurait tendance à dire coup de chance. Mais une naissance qui se passe bien, un trajet sans histoire, une guérison après une lourde opération, coup de chance ou bénédiction ? La réponse est déjà plus subtile. Peut-on y voir là la main de Dieu ? Et l'inverse est encore plus délicat. Un accident. Déraper sur une plaque de glace et se casser la cheville. Maladresse, malchance ou malédiction ? Une maladie, la perte de son emploi. Là encore, pas facile de savoir si l'on peut, s'il faut y voir la main de Dieu, l'intervention de Dieu. Comment donc comprendre ce qui nous arrive dans la vie, car nous sentons bien qu'il y a des choses qui nous arrivent, qui nous dépassent, que nous ne maîtrisons pas, sur lesquelles nous n'avons pas vraiment de prise. Alors Dieu, dans tout cela, est-il agissant, présent ? Personnellement, j'aime à croire que Dieu veille sur ma vie. La plus grande bénédiction, c'est précisément de réaliser que Dieu n'est pas un Dieu indifférent à ce qui nous arrive, qu'il n'est pas un Dieu distant ou distrait. Mais faut-il pour autant voir sa main dans tout ce qui nous arrive ? Je n'en suis pas certain. Les 10 commandements, du reste, nous invitent à ne pas invoquer le nom du Seigneur en vain. On pourrait traduire ça, ne pas mettre Dieu à toutes les sauces. Oui, je crois à un Dieu présent, agissant, mais je ne crois pas à un Dieu qui pilote ma vie. Ma vie n'est pas sur pilotage automatique. Je dois pouvoir assumer mes choix en responsabilité. Mais en même temps, comme je l'ai dit, on le sait tous, il y a parfois, indépendamment de mes choix, de mes responsabilités, des choses qui nous tombent dessus, comme on dit. Des choses qui nous tombent dessus, que ce soit du reste de grand bonheur ou des malheurs. Cela dit, il faut bien l'admettre, quand un malheur nous arrive, on est très vite à chercher un coupable, un responsable, quitte à accuser Dieu. Quand un bonheur nous arrive, généralement, nous le prenons assez vite pour nous. On l'accepte sans sourciller, sans se poser de questions. Et pour les 10 lépreux du texte biblique, était-ce leur jour de chance ou de bénédiction ? La question peut surprendre, mais quand on regarde le texte, on remarque qu'on est assez loin d'un récit de guérison de type classique où Jésus prend la personne à l'écart, lui impose les mains, prie pour elle. Ici, rien de tout cela, pas même la promesse d'une guérison, seulement l'ordre d'aller se montrer au prêtre. Ces 10 lépreux sont mis à banc de la société et doivent donc, comme tous lépreux, se tenir à l'écart des autres personnes. Ces lépreux ne manifestent pas particulièrement de déférence à l'égard de Jésus quand celui-ci passe vers chez eux. En quelque sorte, ils tentent leur chance, comme ils l'auraient fait auprès de n'importe qui aurait passé par là, n'importe quel rabbi, maître ou sage. Peut-on alors, pour leur démarche, parler de foi ? Leur démarche est évidemment intéressé. Et il faut bien leur reconnaître qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Alors essayons. Et cela me fait un peu penser, et loin de moi l'idée de porter quelque jugement que ce soit, cela me fait un peu penser à certaines personnes qui sont prêtes à peu près à tout et n'importe qui leur promet un meilleur sort lorsque le malheur ou la maladie les frappe. Et parfois, c'est une confiance un peu risquée que l'on place en certaines personnes. Mais il y a dans la démarche des lépreux de la sincérité, même si, encore une fois, elle n'est pas le fruit d'un long cheminement spirituel, mais plutôt le signe d'un désespoir, le cri de désespoir d'hommes qui sont complètement morts, morts pour la société, morts pour eux-mêmes, ils sont laissés de côté. Et la guérison intervient alors hors, c'est ça qui est intéressant, hors même de la présence de Jésus. Elle n'est du reste qu'à peine mentionnée. Alors que 9 d'entre eux s'empressent d'aller se montrer au prêtre, le 10e a une démarche différente. Et il est question pour lui de regard. Voyant qu'il est guéri, il porte un regard différent que ses compagnons sur ce qui vient de se passer. Il voit, il reconnaît ce qui lui arrive et cela débouche sur de la reconnaissance. Mais ne taxons pas trop vite les 9 autres lépreux d'ingrats. On peut comprendre leur empressement à aller se montrer aux prêtres pour être réintégrés au sein de la communauté des vivants. Quoi de plus légitime ? L'attestation de guérison et donc la réintégration dans la vie sociale, la vie normale, ne pouvait être obtenue en effet que par un geste liturgique donné par un prêtre. Alors ils ne cherchent pas à comprendre ce qui leur arrive, c'est leur jour de chance, ils ont frappé à la bonne porte au bon moment, peu importe d'où vient cette guérison, ils la prennent sans demander leur reste. Et avant qu'elle ne disparaisse aussi vite et bizarrement qu'elle ait apparu, il faut aller se montrer au prêtre. Pour le Samaritain, c'est différent. Il comprend qu'il y a plus qu'un coup de chance. Il comprend surtout qu'il y a de fait beaucoup plus que la guérison elle-même. Alors, on le voit bien, pour une même histoire, pour un même événement, 9 vont répondre coup de chance, et un va répondre bénédiction. Le Samaritain comprend que le miracle a commencé au moment même où cet homme, Jésus, ne s'est pas dérobé à la rencontre. Le miracle fut dans cette parole d'amour, de dignité, de liberté, entendue et reçue par ces hommes de l'ombre, abandonnés à leur triste sort. Il n'y a eu aucune eau magique, aucune relique, aucun geste, simplement une parole. Et dans cette parole, plus que des mots, une promesse de vie. Cet homme comprend alors que la guérison n'est, avec beaucoup de guillemets, que le signe extérieur d'une rencontre plus profonde qui a bouleversé et qui bouleversera sa vie. Mais pour le comprendre, il lui a fallu s'arrêter. Il lui a fallu regarder en arrière. Être croyant, c'est vivre d'espérance, bien sûr, pour demain. Mais c'est aussi peut-être et surtout vivre de reconnaissance. Le Samaritain ne devient pas croyant au sens d'une vraie confiance en Jésus qui change la vie quand il rencontre Jésus. Son espérance, on l'a dit, était intéressée. Il l'aurait placée en n'importe qui pour être guéri. Mais il devient croyant quand il ose la reconnaissance. Quand il reconnaît que dans cette rencontre, quelque chose a profondément changé, bouleversé sa vie. Alors être croyant, c'est bien sûr avoir des attentes pour demain. Mais être croyant, c'est aussi savoir relire sa vie. Regarder dans sa vie pour discerner les moments où le Seigneur nous a rejoints. Mais vivre de reconnaissance, attention, cela ne veut pas dire tout accepter. Et certainement pas dire merci sans broncher pour tout ce qui nous est arrivé, y compris les épreuves et les peines. La reconnaissance n'est pas un vernis à mettre sur nos peines pour les cacher. Il y a de l'incompréhensible dans notre vie et nous avons le droit parfois d'être fâchés devant les souffrances et les difficultés de la vie. Car la souffrance par essence n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison de dire merci pour la souffrance. J'ai horreur de celles et ceux qui veulent prétendre à une forme de pédagogie de la souffrance, comme si Dieu utilisait la souffrance pour ses fins. Quel Dieu cruel cela serait. Non, il ne s'agit pas de tout accepter sans broncher, mais de déceler en changeant notre regard ce qui, dans notre vie, a pu être de l'ordre d'un surcroît de vie, d'un chemin de sens offert par le Seigneur, auquel nous n'avions peut-être pas pris garde sur le moment. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire comme si la souffrance n'existait pas et qu'il suffisait de sourire béatement à la vie pour que tout aille mieux. Il faut prendre la peine au sérieux et, comme le dit l'Évangile, savoir pleurer avec ceux qui pleurent. La reconnaissance n'est pas là pour gommer la peine, mais pour éclairer notre passé différemment. Si nous croyons que notre vie n'est pas simplement le fruit du hasard, heureux ou malheureux, mais qu'elle est précédée par le désir de Dieu et qu'elle débouche à son terme dans son amour, alors nous pouvons regarder notre vie différemment et faire naître en nous des sentiments de reconnaissance. La foi ouvre à la louange et à l'espérance. Elle nous permet de vivre le présent avec confiance et d'attendre demain avec espérance. Mais la foi est encore plus que cela, ou plutôt préalablement à toute démarche de foi, il y a y avoir une démarche de reconnaissance. Reconnaissance que notre vie est portée par Dieu. Reconnaissance que Dieu ne nous laisse jamais tomber seuls dans le mystère de l'absurde ou le non-sens de la souffrance. Même si beaucoup de questions, il est vrai, demeurent pour nous et en nous irrésolues. La reconnaissance est la condition première à toute démarche de foi. Reconnaître que je suis aimé. Et cet amour, parfois, nous pouvons le ressentir dans des moments de grâce, mais souvent, nous le découvrons plus tard, quand nous prenons le temps de nous arrêter et de regarder en arrière les signes que Dieu a déposés au bord de notre chemin. Il est intéressant de noter du reste que l'apôtre Paul, quand il écrit à toutes ces communautés chrétiennes, eh bien, il commence toujours par rendre grâce. Et pourtant, il leur écrit souvent parce qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a même des bagarres, des différends à régler. La reconnaissance n'est pas là pour cacher les difficultés ou adopter un ton mielleux, mais pour placer la reconnaissance en premier. C'est important pour lui. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit toujours possible de placer la reconnaissance en premier. Le psaume que nous venons de lire n'est certainement pas le psaume que je vais choisir lorsqu'on célèbre un service funèbre dans des conditions extrêmement tragiques. Nous n'allons pas commencer par dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». D'autres psaumes nous permettent de passer en revue d'autres sentiments, de questions, de difficultés, de peines. C'est en cela que les psaumes sont tellement extraordinaires et riches, puisqu'ils nous permettent de passer ces sentiments différents en revue. Mais Paul nous encourage à essayer de tendre vers cette manière de vivre qui commence par rendre grâce, comme nous l'avons fait ce matin, en commençant notre fils avec ce psaume 103. Pour ouvrir notre louange. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cette histoire des 10 lépreux Ce matin, je le lis comme une incitation, comme une invitation à prier, à placer la prière de reconnaissance au cœur de notre démarche de foi, de commencer notre journée par rendre grâce et la terminer en rendant grâce. Je le crois, plus j'apprendrai à dire merci pour tout l'amour dont Dieu nous bénit, plus je trouverai des raisons de dire merci, non seulement dans les jours lumineux, mais également et peut-être surtout dans les jours les plus sombres. Amen.
Nous vous invitons à la prière d'intercession qui sera entrecoupée par l'antienne du cantique 430. Vincent nous la joue une première fois, puis nous la chanterons. Ensuite, spontanément, chaque fois que l'ordre nous en donnera la note. Nous pouvons rester assis.
Seigneur, qui sommes-nous pour t'adresser notre prière ? Comme si tu ne te souciais pas déjà de toutes celles et de tous ceux que nous portons dans notre cœur. Mais comme c'est toi-même qui nous a encouragés à prier, à demander, nous osons humblement venir devant toi pour t'apporter notre prière. Elle nous permet d'élargir notre communion aux dimensions du monde.
Ainsi, Seigneur, nous voudrions t'apporter toutes celles et ceux qui sont à l'étroit dans leur vie, enfermés, arrêtés parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ont perdu le goût de vivre, parce qu'ils s'estiment sans valeur. Seigneur, nous te le demandons, ouvre devant eux un avenir de paix intérieure, où ils puissent découvrir toute la richesse qu'ils portent en eux.
Seigneur, nous voulons te prier pour tous les jeunes qui ont de la peine à trouver leur voie, pour tous ces étudiants qui ne trouvent pas de travail, ces chômeurs en quête d'emploi, pour toutes ces familles qui ont tant de peine à finir le mois, pour toutes ces personnes qui sont inquiètes pour leur avenir. Seigneur, nous te le demandons, ouvre devant elles un avenir professionnel, un avenir où elles puissent vivre sans avoir peur du lendemain.
Seigneur, nous voudrions aussi penser tout particulièrement à ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, les malades et les endeuillés. Ouvre devant eux, Seigneur, un chemin d'espérance. Face aux violences du monde, nous nous sentons souvent bien démunis, Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons te prier avec ardeur pour toutes les personnes qui sont victimes des violations des droits humains et celles qui ont dû fuir leur pays. Nous te remettons aussi nos communautés sœurs qui ne peuvent vivre librement leur foi. Ouvre devant elles, Seigneur, nous te le demandons, un avenir de paix, un avenir où elles pourront vivre libres et heureuses.
Dans cet esprit, nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui exercent des responsabilités, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, ecclésiales. Donne-leur toujours le goût de l'autre et ouvre devant eux un avenir de responsabilité, un avenir où le souci de l'autre et du plus petit prévaudra toujours sur les intérêts particuliers.
Seigneur, Nous te prions pour chacun de nous et pour ceux que nous aimons et qui sont chers à notre cœur. Redis-nous, Seigneur, chaque matin, combien tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui nous accompagne sur tous nos chemins de vie, un Dieu qui jamais ne nous laisse enfermés dans les impasses. C'est avec cette confiance en ton amour que nous pouvons maintenant réunir toutes nos prières en te disant tous ensemble la prière qui fait de nous tes enfants. Disons ensemble le Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Nous arrivons bientôt au terme de notre culte de ce matin et quelques annonces pour vous dire que ce soir, il y aura notre office du soir à 18h avec un très bel ensemble choral et instrumental, l'ensemble vocal et instrumental de Carouge sous la conduite de Marie-Isabelle Pernoux. C'est un culte que j'aurai le plaisir de présider avec mon collègue Roland Benz. Notez aussi que cette semaine, il y a différents rendez-vous à la paroisse, notamment mardi, pour celles et ceux qui aiment commencer la journée par le partage de la parole entre 8 et 9, ce rendez-vous où l'on lit le récit de la Passion, c'est à la maison de paroisse. Dimanche prochain, c'est mon collègue Emmanuel Roland qui présidera le culte ici même. Tout à l'heure, nous aurons le plaisir de prolonger cette célébration puisque c'est l'habitude chaque premier dimanche du mois, par un après-culte qui sera servi à la chapelle des Maccabées. On vous fera sortir par la gauche de manière à ce que vous voyez qu'il y a cet après-culte à la chapelle des Maccabées et que ça vous encourage à y rester. L'idée est que nous puissions prolonger soit la prédication ou avoir un moment d'échange également dans ce temps convivial. Comme vous le savez aussi, il y a une votation qui nous concerne directement, nous, Église, la semaine prochaine, concernant la loi sur la laïcité de l'État. Et nos trois Églises ont fait une déclaration commune que je vais me permettre de lire. On l'a, je sais, déjà lu il y a 15 jours. Mais cela nous donnera l'occasion aussi pour celles et ceux qui, précisément, ont envie de poser des questions. Le moment d'après-culte, nous avons décidé au bureau du Conseil de aussi permettre à celles et ceux qui voulaient poser des questions de le faire à cette occasion-là. C'est pourquoi je vais me permettre de relire cette déclaration qui est celle des trois églises. Vous avez à la sortie, non pas cette déclaration, mais le communiqué de presse qui est plus long, plus détaillé, plus étayé, dont vous avez quelques copies à la sortie. Chers frères et chères sœurs, le 10 février prochain, les électrices et les électeurs se prononceront sur la loi sur la laïcité de l'État approuvée l'année dernière par le Grand Conseil et aussitôt attaquée par 4 référendums. Vous avez reçu votre matériel de vote et vous aurez sans doute remarqué les nombreuses affiches pour ou contre cette loi. Les trois églises chrétiennes historiques de Genève, catholiques chrétiennes, catholiques romaines et protestantes, ont pris une position commune sur cette votation et souhaitent vous la faire connaître. De manière raisonnée, elles soutiennent cette loi qui apporte des clarifications nécessaires et utiles sur le rôle et la place des communautés religieuses dans un canton qui se définit comme laïque. Cette loi prévoit notamment la clarification des principes de laïcité et de neutralité de l'État, la contribution religieuse volontaire maintenue et élargie à toutes les organisations religieuses qui respectent un certain nombre de critères définis, la reconnaissance et la facilitation du travail des aumôneries religieuses auprès des malades, des personnes détenues et des requérants d'asile et des réfugiés, ou encore des dispositions pour une lutte efficace contre les dérives sectaires et pour un enseignement du fait religieux dans les écoles du canton. Issue d'un long processus,
La loi n'est pas parfaite et différents points peuvent susciter des réserves, notamment les dispositions touchant les élus, voire les agents de l'État, et les limites à l'expression religieuse dans l'espace public. Ces points méritent attention, mais ils peuvent être traités de manière ciblée par un processus judiciaire ou parlementaire. Du reste, des recours ont déjà été déposés et ils seront examinés par la justice si la loi est acceptée. Ces quelques réserves ne sauraient donc permettre d'écarter la loi entière d'un simple revers de main, car la loi reprend largement la pratique actuelle et la structure. Cette loi donne à l'État les moyens de garantir la liberté de conscience, de croyance et de non-croyance, et la paix religieuse. Le respect et la mise en œuvre de ces principes et droits fondamentaux ne peuvent pas être laissés à la seule discrétion de l'administration et à des textes et règlements juridiques épars. Pour les trois églises chrétiennes, la loi sur la laïcité répond aux enjeux contemporains et garantit la paix religieuse dans le contexte de la diversité religieuse du canton. Elle s'inscrit ainsi dans une dynamique que nos églises soutiennent depuis des décennies et dont elles sont les actrices déterminantes. Pour cela, sans chercher à se substituer au libre discernement de chacune et chacun, nos églises se prononcent pour le oui à la loi sur la laïcité de l'État le 10 février 2019. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre dernier cantique. Et c'est pendant ce cantique que l'offrande va être recueillie. Nous aurons donc l'occasion, à l'après-culte, soit de prolonger la prédication, soit de discuter ou de répondre à vos questions concernant cette déclaration. Mais maintenant, nous chantons notre reconnaissance au numéro 386. Seigneur, un jour j'ai voulu t'appeler Père et j'ai découvert que depuis toujours j'étais ton enfant. Un jour j'ai voulu te demander pardon et j'ai découvert que tout était pardonné. Un jour j'ai voulu changer pour te plaire et j'ai découvert que tu m'aimais comme j'étais. Alors ce matin, je veux simplement te dire merci
Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. Merci pour la musique et le silence, pour le miracle de chaque jour nouveau. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour tout ce qui m'aide à vivre malgré les difficultés et les peines. Merci pour ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Pour ton amour sans limite, pour ta présence, pour l'espérance que tu me donnes et pour ta joie qui me fait vivre au-delà de ce que j'arrive à exprimer, je veux te rendre grâce. Amen. Et que la bénédiction du Seigneur nous garde et nous conduise dans sa paix. Oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le premier de ses bienfaits, c'est que le Seigneur nous veut du bien. Il nous bénit, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans sa paix. Amen.
Merci à Vincent pour cette pièce qui nous donne de l'énergie pour toute la semaine. Alors je vous souhaite, même si je ne vous le garantis pas ensoleillé, je vous souhaite un dimanche lumineux et bienvenue si, à la préculte si vous avez un moment. Bon dimanche.